Par actualité. Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Les Paractualités du 27 février 2018. Ici Hélène Denis et j'en profite pour remercier François Brodeur qui était à la barre de cette émission hier. En manchette aujourd'hui, 55 athlètes nommés à l'équipe paralympique canadienne pour les Jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang de 2018. Un handicap ne définit pas une personne. Aussi, le Knee Club ou le Knee Club vient en aide aux patients en réadaptation après une opération au genou. En entrevue, je recevrai Vincent Turcotte, père de Camille et membre du regroupement pour la trisomie 21, et Lydia Hubert, auxiliaire de recherche à l'UQAM, qui nous parle de recherche de participants pour un projet doctoral sur le programme Parents à bord. L'équipe paralympique canadienne pour les Jeux de Pyeongchang est composée de 55 athlètes, annoncé aujourd'hui le Comité paralympique canadien en dévoilant la liste officielle des athlètes sélectionnés pour représenter le Canada aux Jeux paralympiques d'hiver qui se dérouleront du 9 au 19 mars 2018 en Corée du Sud. De plus, 16 entraîneurs et 26 membres du personnel de soutien seront du voyage à Pyeongchang en vue de soutenir les athlètes. L'équipe sera dirigée par le chef de mission Todd Nicholson, triple médaillé en para-hockey sur glace. Le Canada sera représenté dans les 5 sports au programme des Jeux paralympiques d'hiver, ski para-alpin, para-hockey sur glace, ski para-nordique, ski de fond et biathlon, para-snowboard et curling en fauteuil roulant. Au sujet de l'équipe paralympique canadienne de Pyeongchang, 55 athlètes, c'est l'équipe la plus nombreuse à représenter le Canada à ce jour aux Jeux paralympiques d'hiver, soit un athlète de plus qu'à Sochi en 2014. 25 athlètes participeront aux Jeux paralympiques pour la première fois. L'athlète paralympique le plus expérimenté est le joueur de hockey Brad Bowden, qui a déjà participé 5 fois à des Jeux paralympiques. L'athlète le plus âgé de l'équipe est James Ensiu, du curling en fauteuil roulant, il a 58 ans. L'athlète le plus jeune est le joueur de para-hockey sur glace, James Dunn, qui a fêté ses 17 ans le 12 novembre. Nouvelle tirée du journal Métro. Les transports en commun à l'occasion de la Nuit blanche. À l'occasion de la Nuit blanche du Festival Montréal en lumière qui aura lieu samedi 3 mars, les métros de la Société de transport de Montréal circuleront toute la nuit pour accompagner les festivaliers chez eux jusqu'aux aurores. Le service de transport adapté en bus sera disponible jusqu'à 4 heures du matin. Les tarifs habituels restent en vigueur et le titre « soirée illimitée » pourra être utilisé toute la nuit. Pour la STM, il serait toutefois inenvisageable de faire rouler les métros toute la nuit pendant le reste de l'année. Les métros ne circulent la nuit que pour de rares occasions. Pendant une nuit, lors de la tempête du siècle, en 1971, pour le passage à l'an 2000, et pour les nuits du 31 décembre. La nuit, la STM doit obligatoirement suspendre ses services pour entretenir les lignes de métro, les rames et la signalisation. La station Berry-UQAM accueillera aussi plusieurs activités pour la Nuit blanche. Un cours de swing de 20h à 22h et de la salsa jusqu'à minuit. À la station Saint-Laurent, les artistes du Sunday Scratch Session tiendront une séance de scratch improvisée sur de la musique instrumentale. Thank you. Chaque semaine jusqu'au 21 mars, Journée mondiale de la trisomie 21, on parle d'un thème de la vie d'un jeune vivant avec la trisomie 21 avec un membre de sa famille. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir en studio Vincent Turcotte, père de Camille, qui l'appelle ma petite cocotte. Il me l'a confié en studio. Et membre du groupe du regroupement pour la trisomie 21, vous avez participé, M. Turcotte, à une capsule vidéo, la sixième donc d'une série de 10 sur le thème, cette fois de l'annonce du diagnostic. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Canal M, M. Turcotte. Avec le recul, diriez-vous que vous avez appris le diagnostic de trisomie 21 de votre fille, Camille, de la bonne façon?
Pas du tout.
Ah non, pourquoi?
Donc, parce que c'est la médecin en charge de la pédiatrie qui est venue nous semer un doute dans le fond. La journée avant, sa résidente était venue nous voir.
Ça s'est passé en quelle année?
Ah, c'est en 2015, au mois d'avril.
D'accord.
Et puis, la résidente était venue voir ma fille le lendemain de sa naissance. Elle a dit, on trouve qu'elle manque un peu de tonus au niveau musculaire, mais ça peut être tout à fait normal à ce stade. Donc, jusque-là, ça va bien. La résidente était jeune, puis elle savait comment parler aux gens.
Oui, oui, oui.
Quand, un peu plus tard dans la journée, ça... patronne est venue voir ma fille. Moi, c'est les 20 minutes
votre
où je suis
fille,
sorti.
Votre femme?
Ma fille et ma femme.
Ah oui, d'accord.
Dans le fond.
Oui, oui.
Parce qu'elle est venue l'examiner elle aussi.
Oui.
Et moi, c'est les seules 20 minutes où je suis sorti de la chambre durant 24 heures. Et elle a choisi ce moment-là pour venir déjà là. C'était pas le bon moment. Et puis, ce qu'elle a dit à ma femme, dans le fond, elle s'est mise à regarder le bébé. Elle dit, ouais, elle a vos yeux parce que ma femme a des yeux un petit peu en amande.
Mm-hmm.
Et puis là, ma conjointe a dit, mais pourquoi vous dites « elle a mes yeux »? Ah, ben parce qu'on veut vérifier s'il y a une situation spéciale, mais elle a vos yeux. OK,
bon.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? On fait des tests pour voir s'il n'y a pas une situation problématique, mais elle a vos yeux. Et là, elle mettait ma conjointe dans
l'inquiétude. Un état d'insécurité totale,
oui. Et puis là, on s'entend, après un accouchement, c'est pas là que les femmes sont à leur pleine énergie.
Ben, émotionnellement,
oui,
là, ils sont très vulnérables.
Exactement.
Ouais.
Et là, c'est ma conjointe qui a fini par comprendre. Elle a dit, est-ce que vous trouvez que ma fille a l'air trisomique?
Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Exactement.
C'est ça?
Et elle a dit, oui, c'est possible, parce que là, elle manque de tonus musculaire, puis elle a des traits physiques, mais elle a vos yeux. Donc... Et
ça
le pire,
toujours, ça.
Elle a laissé ma conjointe toute seule dans la chambre avec ma fille dans cet état-là. Alors moi, je suis revenu avec la nourriture et puis j'ai trouvé ma conjointe en larmes. Là, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? » Moi, j'avais rien entendu de tout ça. Et là, elle me raconte ça. Et moi, j'étais fâché parce que je me suis dit « Pourquoi, un, ils l'ont laissée toute seule? » Puis deux, pourquoi ça a été amené de cette façon-là?
Oui. Alors... Comment auriez-vous aimé qu'on vous aborde, qu'on vous présente le diagnostic?
Bien, en fait, j'aurais aimé qu'on vienne avec douceur, qu'on attende de voir les deux parents en même temps, qu'on puisse dire, bon, écoutez, on doit s'asseoir, on doit discuter de quelque chose.
L'avez-vous envisagé, ça, de cette possibilité-là, d'avoir un enfant trisomique?
C'est drôle parce qu'on n'a pas vraiment eu cette discussion-là. Pourquoi? Parce que autour de 20 semaines, on a passé l'échographie de mi-grossesse, en fait, comme
ouais,
ils disent.
Ouais.
Et puis, là, ils nous ont donné le résultat de la clarté nucale. Ils prennent une petite mesure dans la nuque
ouais.
pour voir s'il y a une possibilité de trisomie. Et là, ils ont dit, vous avez une chance sur 1700, beau résultat, félicitations. Donc, moi, dans ma tête, c'était comme réglé.
Ouais.
Mais c'est pas ce qu'ils m'ont dit.
Ah.
Ils m'ont dit, j'ai une chance sur 1700.
Ouais,
ils m'ont jamais dit, vous n'aurez pas d'enfant trisomique.
Non, c'est ça.
Mais dans ma tête, moi, c'était classé.
Ouais. Comme dans la tête, j'imagine, de bien des parents quand ils se font dire ça.
Exactement.
Ouais. Et quelles sont les grandes étapes de l'acceptation du diagnostic?
Je vais parler pour moi, parce que c'est différent pour chacun. Ma conjointe et moi, ça a été très différent.
Ah oui?
Moi, ça a été un gros choc. Et quand j'ai appris ça, quand ils nous ont confirmé que ma cocotte était effectivement trisomique, ça a été un choc parce que je ne m'y attendais pas. Et puis... Donc, le choc, après ça, la tristesse. Ensuite, ça a été l'injustice. Moi, je me disais, pourquoi? Pourquoi
ouais.
nous?
Vous étiez révolté.
Pourquoi ma femme? Ouais. Pourquoi moi? Mais moi, c'était surtout pourquoi elle? Pourquoi ma fille? Elle n'a rien fait.
Ouais.
Pourquoi elle vient au monde avec cette difficulté-là? Elle n'a rien fait pour mériter ça. Bon, c'est des pensées qui nous passent par la tête. Et moi, ça m'a pris 6 jours parce que comment je suis fait, moi, j'étais un gars très émotif, mais j'étais un gars qui me relève rapidement. Donc, au bout de 6 jours, je me suis dit, il y a eu un déclic. Je la regardais, puis je me suis dit, tu sais quoi? Tu l'aimes déjà plus que tout ton monde. Tu fonces, puis tu fais avec.
Alors, comment on peut se préparer à cette possibilité, justement, lorsqu'on on attend un enfant, que ça se peut que cet enfant-là soit atteint de trisomie 21?
Bien, en fait, il y a des défis importants. Je veux pas minimiser les défis que ça apporte, mais ce qu'il faut se dire, c'est pas aussi pire que certaines personnes pourraient le penser, en tout cas pour nous. Oui, ça demande du temps, ça demande beaucoup de suivi, des spécialistes, physiothérapie, ergothérapie, parce qu'ils ont plus de difficultés au niveau moteur et à apprendre certaines choses des fois, mais il y a des degrés différents.
Ouais.
Et puis quand on s'investit au niveau des rendez-vous, de la physiothérapie, de l'ergothérapie, ben moi, ma cocotte, elle marche déjà depuis 2-3 mois.
Elle a 3 ans, là, Camille?
Elle va avoir 3 ans au mois d'avril.
D'accord.
Donc, elle marche bien, elle parle quand même beaucoup
pour
son âge, 2 ans et 10 mois, elle dit beaucoup, beaucoup de mots.
Elle est très stimulée, j'imagine?
Énormément.
Ouais.
Et nous, on est 2 enseignants à la maison, c'est sûr que ça, on a ce réflexe-là de stimuler, mais c'est pas des choses si compliquées qu'on fait. On lui lit des livres, on lui explique les mots, on lui montre des images en disant les mots.
Comme donc, vous feriez avec un enfant qui n'est pas atteint de trisomie.
Alors, n'importe qui est capable de le faire, selon nous.
Alors, on retient aussi que l'importance d'annoncer le diagnostic, la personne qui est responsable de le faire doit être, plus diplomate?
Plus diplomate, plus douce.
Oui.
Ben, en fait, ce que j'ai compris, c'est que probablement que cette médecin-là était très, très intelligente et très bonne dans sa pratique. Par contre, le côté humain, comment annoncer de mauvaises nouvelles aux gens, elle ne l'avait pas du tout.
À travailler.
Elle aurait peut-être dû laisser ça à sa résidente, qui l'avait beaucoup plus qu'elle.
Un grand merci d'être passé, Vincent Turcotte,
merci
père
beaucoup.
De Camille, votre cocotte et membre du regroupement pour la trisomie 21. On ira jeter un coup d'œil, écouter cette capsule vidéo et la regarder aussi. trisomie.qc.ca, où vous nous parlez du diagnostic. Merci.
Merci.
Un petit délai ici parce que M. Turcotte est en train de me montrer des photos de la charmante Camille. Il est amoureux fou de sa petite fille. Alors, on poursuit avec maintenant le bloc régional. C'est dans l'expressmoncalme.com. Martin Deschamps et Claudia Negrelli ont décidé d'être les porte-voix pour le Salon de l'emploi pour personnes en situation de handicap. Vivant eux-mêmes une limitation physique, ils ont continué à poursuivre leurs rêves et veulent propager l'espoir aux autres personnes vivant un handicap, vivant avec un handicap. Un handicap ou une limitation fonctionnelle ne définit pas une personne. Voilà le message qui a pu être lancé par Martin Deschamps et Claudia Negrelli. À leur avis, toute personne devrait être en mesure de s'accomplir et d'œuvrer au sein d'une profession qui les intéresse, et ce, malgré une condition de santé différente. C'est pourquoi ils ont décidé de s'impliquer et de faire entendre leur voix dans une cause qui les touche directement. Pour sa part, Martin Deschamps sera le conférencier de l'événement et jouera de la musique. Il confesse que sa différence lui a procuré du positif dans sa vie. Se remémorant son premier emploi chez Bell Canada, l'artiste n'a pas eu peur de mettre à profit son talent. Toute personne vivant une situation de limitation physique, sensorielle, psychologique ou intellectuelle est conviée à se rendre au Salon de l'emploi où une vingtaine d'exposants seront présents, ainsi que des employeurs de la région de Lanaudière. C'est l'occasion pour les visiteurs de se renseigner et de bénéficier des offres d'emploi des postes qui seront à combler au printemps. L'objectif visé par les organisateurs est de réduire le plus possible l'écart entre le taux d'emploi pour personnes ayant un handicap et ceux qui n'en possèdent pas. Les frais de transport adaptés sont assumés par l'organisation. Pour ceux qui n'ont pas de moyens de transport, il est possible de téléphoner au 450-755-3855. Je répète, 450-755-3855. Et je joins maintenant Lydia Hubert, auxiliaire de recherche à l'Université du Québec à Montréal, où on est à la recherche de participants pour un projet doctoral sur le programme Parents à bord, relié au TOC et offrant du soutien aux parents d'abord. TOC signifie trouble obsessionnel compulsif. Bonjour, Madame Hubert.
Bonjour.
Parents à bord, qu'est-ce que c'est?
En fait, Parents à bord, c'est un programme parental composé de 10 rencontres d'environ 60 minutes où l'on vise la compréhension du TOC ainsi que l'amélioration du soutien et du fonctionnement familial.
Eh oui, et quel type de participants vous recherchez?
Les participants qu'on recherche, tout d'abord, ce sont les parents de jeunes âgés entre 9 à 16 ans qui auraient des symptômes ou un diagnostic TOC et le jeune en question.
Et sur quoi va porter l'étude?
L'étude porte, dans le fond, on désire évaluer les effets du programme parental Parents à bord.
Mm-hmm. Et c'est quoi le but de la recherche?
Le but de la recherche, en fait, c'est vraiment d'évaluer le bénéfice, l'apport que peut apporter un programme de soutien aux parents comme parents à bord.
Et ça implique quoi exactement?
La rencontre, l'implication de la recherche, c'est une rencontre d'environ 1h30 avant le programme où, avec des questionnaires, on va venir évaluer le niveau du TOC, de voir le fonctionnement familial. Par la suite, suivra 10 rencontres avec une intervenante spécialisée dans le TOC pour les parents uniquement. Et on refait une rencontre max d'environ 1h30 après le programme pour évaluer les bienfaits du programme.
Et quels sont les critères pour participer à cette recherche?
D'être parent d'un jeune entre 9 à 16 ans ayant un TOC ou des symptômes TOC. Si le jeune prend une médication, la médication doit être stable depuis environ un mois.
Et quand on parle de TOC, on parle de troubles obsessionnels compulsifs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Oui, par le TOC, ce qu'on veut dire, en fait, il y a deux critères. Là, donc, il y aurait plus relié à les compulsions. Donc, ça va être de faire souvent des mouvements répétitifs ou de devoir aller souvent se laver les mains. Puis, on a également les pensées qui sont liées à ces compulsions-là. Donc, ça va vraiment être les obsessions de toujours penser à la même chose. Donc, je suis contaminée, j'ai beaucoup de bactéries. Je dois constamment donc aller laver mes mains pour venir apaiser cette obsession-là.
D'accord. Et si on est intéressé à participer au projet doctoral sur le programme Parents à bord, on s'adresse à qui et comment on vous joint?
C'est un programme qui est relié à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et à l'UQAM. Il s'agit du projet de Mme Annie Surprenant. On peut la rejoindre à son numéro personnel dans le 514-772-3599. Je répète, 514-772-3599. 3599 ou à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal au 514-251-4015 au poste 3593.
Et je ne sais pas si vous l'avez dit, mais le projet prend son envol quand?
Le projet vient de commencer. En fait, on est actuellement en période de recrutement.
Parfait. Bien, un grand merci, Lydia Hubert, auxiliaire de recherche à l'Université du Québec à Montréal, et j'espère que vous trouverez suffisamment de participants pour aller au bout de ce beau projet.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée.
Nouvelle régionale, avant de passer au national et à l'international, la maison Manojla Govedarika, qui hébergeait des personnes prises avec d'importants problèmes mentaux sur la rue Ontario à Sherbrooke, a été forcée de fermer ses portes. Les autorités de la santé ont forcé la fermeture de la ressource d'hébergement à la suite d'une enquête administrative lancée après la mort nébuleuse d'un pensionnaire survenu il y a 2 mois. Au cours de la fin de semaine, les 7 bénéficiaires hébergés dans la maison ont été déménagés au centre jeunesse Val-du-Lac. Les 7 patients souffrent de déficience intellectuelle et d'un trouble du spectre de l'autisme. Une plainte avait été formulée contre la maison de soins puisqu'il y avait des lacunes quant à la présence continue de remplaçants compétents pour assurer la sécurité des usagers. Le propriétaire, Manojla Govedarika, était effectivement en vacances au moment où l'un de ses pensionnaires, Shane Tremblay, a été découvert sans vie sur le plancher de sa chambre à coucher. Attristé par le décès, le propriétaire de la maison a dit n'avoir rien à se reprocher. Il compte contester la décision du CIUS de l'Estrie de mettre fin à son entente contractuelle avec lui. « J'ai des années et des années d'excellents services. J'ai même aidé pendant la transition à former ceux qui vont prendre la relève », a souligné M. Govedarika, en entrevue avec TVA Nouvelles. « Je déplore qu'ils rendent publique cette décision. J'ai une réputation irréprochable. On me confiait les cas avec troubles de comportement les plus lourds. L'enquête du coroner et du service de police se poursuit pour faire la lumière sur les circonstances nébuleuses de la mort du jeune homme de 19 ans. » Une nouvelle tirée du site de Radio-Canada après la dissolution des services ambulatoires de physiothérapie financés par les fonds publics. Les patients en rééducation doivent trouver d'autres façons d'obtenir des soins et du soutien. C'est ainsi que s'est créé le NI Club, un regroupement communautaire d'environ 15 personnes qui se réunissent une fois par mois pour s'échanger de l'information et s'appuyer mutuellement. Chaque mois, une douzaine de Winnipegois se réunissent autour d'un café dans un centre de réadaptation pour parler d'un sujet commun, leur genou. Les opérations chirurgicales de remplacement du genou sont parmi les plus communes au Canada et deviendront plus fréquentes car la population vieillit. Pour que les opérations soient fructueuses, les patients doivent subir des mois, parfois des années de rééducation. Les patients peuvent se sentir handicapés, peinés et découragés pendant le processus, selon Laura Reimer, fondatrice du Knee Club. Le club a maintenant 15 membres. Les rencontres du Knee Club ont lieu une fois par mois à la clinique Total Rehabilitation and Sports Injury, boulevard Provencher. Ses membres portent des T-shirts noirs à l'effigie du Knee Club lorsqu'ils s'entraînent ensemble, restent en contact par message texte et ont une page Facebook. INCA souhaite vous informer que son programme Vision Amitié, qui permettait aux clients de recevoir hebdomadairement la visite de bénévoles, ne sera pas maintenu. Plusieurs raisons expliquent cette décision. En outre, divers services similaires, accompagnement et visite amicale, sont déjà offerts par les CLSC, les centres communautaires, les centres d'action bénévole et autres organismes régionaux. Étant donné le vieillissement de la population, ce genre de service est de plus en plus fréquent. INCA préfère mettre ses ressources dans des programmes qui répondent plus spécifiquement aux besoins des personnes vivant avec une perte de vision. Pour tous nos clients qui sont actuellement jumelés à un bénévole dans le cadre de ce programme, aucun changement ne sera apporté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Stéphanie Michaud au 1-800-465-4622 poste 226, 1-800-465-4622 poste 226 ou par courriel à stéphanie.michaud@inca.ca. Lors de sa soirée des Grands Piliers 2018, le 8 février dernier, la Fondation Le Pilier était heureuse d'annoncer à ses invités que le montant net de 115 000 $ amassé grâce à la soirée financera la création d'une nouvelle ressource pour personnes handicapées afin d'améliorer leur qualité de vie et par le fait même celle de leurs proches. Si vous voulez avoir plus de détails, www.lepilier.org. Voilà, c'est tout pour les paractualités du mardi 27 février 2018. Ici Hélène Denis qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci à mes invités, Vincent Turcotte, père de Camille et membre du regroupement pour la trisomie 21, et Lydia Hubert, auxiliaire de recherche à l'Université du Québec à Montréal, qui est à la recherche de participants pour un projet doctoral sur le programme Parents à bord, relié au TOC et offrant du soutien aux parents. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Maurice Bolduc à la technique. On se retrouve demain.